Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans RTL Midi. Soyez les bienvenus dans le grand carrefour de l'information de la mi-journée. Vous le savez, c'est votre émission. 90 minutes pour comprendre l'actualité et surtout pour dialoguer tous ensemble. Christelle, bonjour.
Bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant au 3210, vos messages attendus sur la page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole. L'actualité d'abord, Christelle, c'est évidemment le choc PSG-Real Madrid.
Brio ou fiasco, les Parisiens jouent une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Heureusement, à domicile, ils n'ont pas été battus au Parc des Princes depuis 51 matchs. Décryptage et analyse à suivre de l'invité d'RTL Midi, l'ancien champion du monde, Robert Pires. Le portrait psychologique de Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan. Un homme ordinaire, disent les psychiatres, mais avec des pulsions. Un nouvel appel à la grève unitaire chez Air France, ce sera pour le 23 mars. Dans RTL Midi aussi, la guerre des JT, TF1 doublé pour la troisième fois en 4 jours par France 2. L'écran noir pratiqué par le groupe Canal Plus fait toujours plonger la une. Pour les tout petits, le problème est réglé. Pas d'écran du tout. C'est même inscrit dans le nouveau carnet de santé. Dites-nous au 3210 comment vous régulez l'usage des tablettes portables et accessoirement des téléviseurs avec vos enfants. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Sortons couverts.
Exactement, prenez le parapluie. Alors vous allez me dire, il ne va pas servir tout le temps. Non, je suis d'accord. Mais à un moment ou à un autre, il servira, notamment dans l'après-midi où les averses vont reprendre un peu de vigueur dans le centre, dans le nord, on ne les a pas encore vues, elles vont arriver en cours d'après-midi. On l'a déjà dans l'ouest, ça sera encore le cas cet après-midi, avec parfois de l'orage entre les Pays de la Loire et les Pyrénées. Des averses également dans l'est, sous forme de pluie, de neige en montagne, des 1000 mètres. Une exception quand même, le Languedoc-Roussillon, la Provence devraient passer un peu au travers de ce risque d'averse avec un peu plus d'éclaircies, mais des averses également sur la Corse ou encore la Côte d'Azur. Tout ça avec des températures en légère baisse par rapport à hier. 8 à 11 degrés dans la moitié nord, ça reste quand même largement de saison, et 12 à 15, voire 16 degrés dans le sud, 16 à Montpellier par exemple.
Et Louis Baudin avec sa superbe écharpe de retour pour les détails. Avant 13h, un jour sur la Terre, c'est une histoire comme tous les jours après 13h. Et Laurent Gérard pour rire un peu, beaucoup, énormément tout à l'heure à 13h50. La question du jour sur RTL.fr concerne donc le match du soir. Paris peut-il signer l'exploit d'éliminer le Real et décrocher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Vous dites oui à seulement 19% sur RTL.fr, non à 64%. Alors on en parle tous ensemble. Vos avis, vos appels au 3210 et un premier coup de fil de Arnaud ce matin depuis le Jura.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je suis de nature optimiste. Le jour du tirage au sort, j'ai eu le commentaire suivant. J'ai dit, on va les battre. Par contre, on sera éliminé après. Parce que là, si jamais on gagne ce soir, il va y avoir des commentaires. Ça va être, ça y est, on est champion d'Europe. Et puis, je suis ravi que Neymar joue pas. Depuis quelques temps, il joue trop personnel. Si au match aller, on avait joué collectif, eh ben, le score n'aurait pas été 3-1 pour le Real, mais sûrement pour nous.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le PSG entre passé et avenir. Les Parisiens doivent remonter le Real Madrid pour accéder à une place en quart de finale à la Ligue des Champions après avoir été battu 3-1 à l'aller. Et ce n'est pas impossible. Souvenez-vous, c'était en 1993 et Camboiré donnait le but de la qualification au PSG. 25 ans après, le club joue sa crédibilité dans la plus prestigieuse compétition européenne après avoir investi plus de 400 millions d'euros dans ses joueurs cette année. La moitié de la somme ne sera pas sur le terrain puisque Neymar entame à peine sa rééducation au Brésil. Mais le PSG peut compter sur un point fort, le parc, son jardin qui ne rate jamais les grands rendez-vous, Nicolas Georgerot.
Oui, le Parc des Princes, l'une des enceintes où il est le plus compliqué de s'imposer. Une seule défaite du PSG, figurez-vous, en Coupe d'Europe depuis 11 ans. C'était le Barça en avril 2015, un soir lors duquel un certain Neymar avait inscrit le premier but pour les Catalans. Le Parc donne des forces, confirme le défenseur Lévin Kurzawa.
Au Parc, on a une force en plus, c'est les supporters qui sont derrière nous. Il y a le terrain qu'on connaît par cœur. Et voilà, on peut le faire et je pense que tout le monde sait qu'on peut le faire.
Paris déroule cette saison à domicile, 19 matchs, 19 victoires, 4 buts de moyenne précisément à chaque rencontre dans son stade, le milieu Adrien Rabiot.
On a fait appel à tous les supporters, à tous les gens pour nous soutenir. On va avoir besoin de tout le monde et bien sûr de jouer chez nous, ça a quelque chose de spécial. Et c'est vrai que dans les statistiques, on est vraiment très bon, donc il faut que ça continue et c'est une très bonne chose pour mettre le Real en difficulté, je pense.
Et si les Parisiens conservent leur rythme de la Ligue des Champions au Parc, 3-0 contre le Bayern, 7-1 contre le Celtic, 5-0 contre Anderlecht, des scores qui suffiraient ce soir pour se qualifier, mais c'est le Real Madrid avec son expérience des grands rendez-vous.
Et les supporters du PSG sont déjà à bloc, hein.
Oui, depuis quelques jours, effectivement, il y aura notamment un cortège vers 18h30 avec les ultras aux abords du parc. Et puis, par exemple, cette nuit, vers 1h30 du matin, un petit groupe de Parisiens est allé lancer quelques pétards, mettre un peu d'ambiance sous les fenêtres de l'hôtel des Madrilènes. Alors, le double vitrage de l'hôtel luxueux du Réal a dû atténuer le bruit, mais ça met dans le bain pour ce soir. L'émir du Qatar sera présent. Il ne fait le déplacement que pour les grandes occasions. La dernière fois, c'était PSG Guingamp en avril dernier.
Il n'aime pas se déplacer pour rien. Merci Nicolas Georgerot. Et pour les retardataires, sachez qu'il reste quelques ultimes places sur le marché officiel qui grimpe jusqu'à 800 euros. Sur le marché noir, ça monte jusqu'à plus de 11 000 euros.
Alors, il nous fallait le regard d'un spécialiste pour cet avant-match choc. Robert Pires, consultant beIN Sport, nous rejoint. Bonjour Robert.
Bonjour.
On avait besoin du champion du monde, de l'ancien joueur et du spécialiste que vous êtes, Robert. Est-ce que Paris peut le faire ce soir, tout simplement ?
Bah, écoutez, oui, je pense que Paris, ce soir, peut créer l'exploit, parce qu'il y a quand même deux buts à remonter. On sait que ça sera difficile, compliqué en face. C'est surtout une équipe du Real qui est expérimentée, qui a l'habitude justement du très haut niveau, qui a l'habitude de ce genre de rencontres. Mais ensuite, quand on voit un petit peu les hommes du PSG, on s'aperçoit que Paris a quand même ses chances et peut, je l'espère pour tout le monde et surtout pour la France, éliminer le grand Real Madrid.
Le faire même sans Neymar, Robert Pires ?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense que tout est possible. Après, on le sait pertinemment que Neymar est un joueur important, est un joueur de grande classe, qui peut vous faire la différence à n'importe quel moment, vous débloquer n'importe quelle situation. Maintenant, vous savez, il n'est pas là, il faut faire avec. On est en train de parler du Paris Saint-Germain, c'est un effectif de grand talent, c'est un effectif pardon, qui est très riche. Donc il y a toujours des solutions. Après, je crois que celui qui va jouer à sa place, je pense que ce soir, ça sera notre petit Kylian Mbappé. Donc surtout qu'il se mette dans sa peau et non pas celle de vouloir vraiment à tout prix remplacer Neymar.
Robert, il y a certains joueurs du PSG et même des spécialistes qui notent que cette absence de Neymar, finalement, elle pourrait souder le groupe et donc tirer ce PSG vers le haut en l'absence de la pépite brésilienne.
Bah écoutez, je suis d'accord avec tous les gens qui pensent ça, avec les spécialistes, non spécialistes. Je crois que le meilleur exemple pour le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de la finale de l'Euro 2016 contre les Portugais, justement, parce que Cristiano Ronaldo, bah, il s'est blessé, puis on a vu justement tous les Portugais se souder, être vraiment solidaires, et puis surtout faire face à la vague de l'équipe de France. Mais encore une fois, je crois qu'il va falloir faire confiance à 100% aux hommes qui sont sur le terrain, mais aussi à ceux qui sont sur le banc.
Je reprends vos propos de tout à l'heure, Robert. Vous disiez, je le souhaite pour Paris, je le souhaite pour la France. Ça veut dire que toute la France du foot doit être derrière le PSG ce soir ?
Bah écoutez, je l'espère, en tout cas c'est ce que je souhaite. Aujourd'hui, on ne peut être que supporter du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il faut oublier si on l'est pour l'OM, pour Lyon, pour Bordeaux. Je crois qu'aujourd'hui il faut une union sacrée. Et puis c'est notre représentant. On veut que le Paris Saint-Germain aille le plus loin possible. On sait que l'objectif du club parisien, c'est de soulever cette coupe. Il faut y aller petit à petit et puis se dire qu'aujourd'hui, encore une fois, quand je regarde l'effectif de Paris, cette équipe, elle est capable de gagner cette Champions League.
Si jamais c'était terminé ce soir, Robert, et donc ce Paris Saint-Germain éliminé, ça serait quoi ? Ça serait un énorme échec ?
Un échec, oui, parce qu'on a beaucoup misé pour Paris, pour cette compétition. Et après, non, parce qu'en face, c'est quand même le Real et ça fait partie, il ne faut pas l'oublier, quand même un des favoris.
Merci Robert Pires d'avoir été dans RTL Midi.
Merci à vous aussi. Et puis allez Paris.
Le Paris Saint-Germain en direct sur RTL ce soir, une soirée spéciale, bien sûr. 20h minuit, un club spécial. Club Lisa avec Bichente, Lisa Razou et tous nos spécialistes. Et vous, dès maintenant, au 32-10, est-ce que Paris peut réaliser l'exploit face au club de Zinedine Zidane ? Vous êtes les bienvenus, le 32-10, les réseaux sociaux, le compte Twitter RTL Midi et également la page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole. On en parle tous ensemble.
Une pause et dans un instant, on évoque le profil psychologique du tueur de la gare de Perpignan.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Il continue de regarder consciencieusement ses pieds dans le box, incapable de croiser le regard de l'une de ses victimes ou de leur famille. Deuxième jour du procès du tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson, et de ses crimes atroces. Patrick Tégéraud, vous êtes sur place pour RTL. Les experts psychiatres ont dressé ce matin le portrait d'un monsieur tout le monde, mais qui a des pulsions.
Eh oui, il y a des pulsions qui remontent peut-être à l'enfance. C'est toujours par là qu'on recherche une explication. Et un des avocats de Ranson a même osé citer Jules Renard. Tout le monde n'a pas la chance de naître orphelin. Ranson est le fils en effet d'un homme âgé, un maçon handicapé qui boit du vin et tape sa femme. Sa mère, Ranson le dit lui-même, est simplette, bébête. Elle aussi frappe, mais sur lui. Ils vivent dans un baraquement en bois, vestige de la guerre 14-18. Les frères et sœurs de Ranson sont placés, mais pas lui, l'aîné. C'est l'instituteur qui donne des boîtes de conserve pour améliorer l'ordinaire, car il n'y a pas que l'affectif qui est carencé. Le premier expert conclut ainsi, Jacques Ranson a été moins aimé que bien d'autres, plus misérable que beaucoup, mais ça ne peut pas tout excuser. Le second expert est le dernier à l'avoir vu. Pour lui, Jacques Ranson est un grand psychopathe, pas comme Hannibal Lecter, le serial killer subtil et élaboré du Silence des agneaux. Non, Ranson, lui, est un primaire. Il ne réfléchit pas, il agit. Pour le médecin, un neurologue à la base, Ranson a un cerveau reptilien qui fonctionne bien, mais un cerveau supérieur sous-évolué qui en fait donc, je cite, un primate sous-évolué. Lorsqu'il passe à l'acte, l'autre n'existe pas, c'est un jouet. Il veut du sexe. Il n'y arrive pas, alors il casse son jouet, il le découpe, prend des trophées. Sur le banc des parties civiles, c'en est trop pour Sabrina, qui a subi et survécu de justesse à l'assaut de Ranson. En larmes, elle quitte la salle d'audience.
Patrick Tégéraud, au palais de justice de Perpignan pour RTL. La théorie du Big Bang, chère à Emmanuel Macron, appliquée cette fois à la prison. Le chef de l'État annoncera cet après-midi sa réforme de la pénitentiaire pour en finir avec la surpopulation carcérale qui atteint 120% au niveau national. Deux axes, privilégier d'autres sanctions et faire réellement appliquer les peines. Un nouvel appel à la grève à Air France, unitaire de nouveau et toujours pour une augmentation de salaire. Ce sera le 23 mars, un mois pile après la précédente.
12h43, la suite de RTL Midi et le désamour en héritage. Trois mois après le décès de Johnny Hallyday, Nathalie Baye s'exprime à son tour dans un communiqué. La mère de Laura Smet affirme que Johnny aimait ses enfants, mais que les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. La réalité était moins gracieuse que les photos familiales. Et elle s'interroge sur le fait que toute la famille Boudou, autrement dit celle de Laetitia, est citée dans le testament. Alors Jean-Alphonse Richard, on peut parler là de guerre des clans.
Absolument, deux parties qui s'affrontent et c'est la première fois que l'accusation est aussi directe. Nathalie Baye affirme sans détour que David et Laura étaient exclus de la vie du chanteur, devenu, je cite, un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui et qui dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. Laetitia et sa propre famille, les Boudou, auraient donc confisqué peu à peu la vie de la star au point de régner sur sa succession. C'est bien ce que laisse entendre Nathalie Baye en précisant que toute la famille Boudou est citée sur le testament jusqu'au frère que Johnny ne supportait pas. Ce frère très discret et très proche de Laetitia, c'est effectivement Grégory Boudou. Il est cité comme exécuteur testamentaire en cas de décès de sa sœur. Nathalie Baye ne fait aucune allusion à des questions d'argent, au patrimoine financier de Johnny, mais déplore que le clan Boudou ait la main mise sur l'œuvre de l'artiste, avec, dit-elle, David et Laura qui se voient refuser jusqu'au droit d'écouter l'album posthume de leur père.
Voilà, la guerre des clans avec Jean-Alphonse Richard et l'héritage de Johnny Hallyday, ça peut vous inspirer au 3210, vous êtes les bienvenus. Nicolas Hulot a porté plainte en diffamation contre le magazine Hebdo. Ce dernier avait relayé des soupçons de viol et de harcèlement sexuel. Le ministre avait dénoncé la parution de l'article et était venu dénoncer à la télévision des rumeurs. La plainte a été déposée vendredi avec constitution de partie civile.
Le PS continue de vendre ses bijoux de famille après l'immeuble de la rue de Solferino à Paris. Celui du PS des Bouches-du-Rhône vient d'être vendu à Marseille. Le barreau l'a acheté pour 2,4 millions d'euros. 36 ans que l'immeuble abritait les socialistes dans une fédération chahutée où l'on craint encore des tripatouillages à l'occasion du vote pour l'élection du futur premier secrétaire, Vincent Derosier.
Oui, et c'est la ville de Marseille qui est pointée du doigt par deux des quatre candidats, Luc Carvounas et le patron des députés PS, Olivier Faure.
À chaque congrès, on se pose la question de savoir si les votes sont des votes truqués ou si ce sont des votes réels.
Alors, ce que dénonce le député socialiste, c'est un système de fausses cartes d'adhérents, d'après Benoît Payan. Il est président du groupe socialiste au conseil municipal de Marseille et c'est un proche d'Olivier Faure. Ça pourrait même concerner un quart des inscrits, soit près de 800 voix.
On ne peut pas continuer à avoir des endroits où il y a 4 fois plus de socialistes encartés que d'électeurs socialistes. Ça équivaudrait à considérer qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de socialistes en France, vous m'entendez ? Benoît Hamon a fait 2 millions de voix.
Rue de Solferino, on assure que les fichiers des militants seront contrôlés d'ici d'ici le premier tour et Rachid Temal, le premier secrétaire par intérim, promet un scrutin transparent.
Chacun saura qu'il n'y a pas de triche, évidemment. Et je fais en sorte que ce congrès-là soit un congrès où chacun des militants puisse choisir par son vote l'avenir du Parti socialiste.
Enfin, côté nouvelle technologie, les quatre candidats auront à leur disposition un logiciel pour suivre la remontée des résultats en temps réel.
Et n'oubliez pas le grand rendez-vous demain sur RTL. Quatre candidats au poste de premier secrétaire débattront entre 21h et 22h30. Débat en direct retransmis aussi sur LCI et en partenariat avec Le Figaro. À l'étranger, le rapprochement entre les deux Corées. Elles sont d'accord pour tenir un sommet à la frontière en avril. Et leurs dirigeants vont même ouvrir une ligne de communication d'urgence. La Corée du Nord promet de suspendre ses essais nucléaires durant ce sommet. Rien n'est réglé en Birmanie. Le nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas se poursuit, contrairement à ce qu'affirme le pouvoir. Le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies dénonce une nouvelle campagne de terreur et de famine afin de les faire fuir vers le Bangladesh voisin. 700 000 musulmans sont déjà partis depuis le mois d'août.
12h47, la suite de RTL Midi en ce mardi dans un instant. Et avec l'écran noir pour le groupe TF1, les opérateurs se déchaînent, on vous dit tout.
RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Voilà un sujet qui vous avait fait réagir hier nombreux au 3210 et ce sera le cas ce midi encore. 3-2-1-0 pour vos avis sur ce JT du 20h de TF1 qui a été battu pour la troisième fois en 4 jours par celui de France 2. La décision de Canal+ de pratiquer l'écran noir commence même à faire trembler la tour TF1. Ce week-end, la première chaîne a perdu 13% d'audience. Alors Laurent Marsic, ça renforce la détermination des autres opérateurs à ne pas payer non plus la rémunération réclamée par TF1.
Oui, en témoigne ce message apparu brièvement hier soir chez certains abonnés de Free, ceux qui regardent les chaînes via leur Freebox. Pendant une heure, un panneau annonçait la disparition prochaine des chaînes du groupe TF1. Free a déjà menacé d'arrêter de diffuser ces chaînes-là à la fin du contrat qui les lie à TF1 le 31 mars. Des opérateurs qui font front commun, puisqu'à nos confrères du Figaro, cette fois-ci, c'est le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui menace lui aussi de couper le signal si aucun accord n'est trouvé avec TF1. Hors de question pour eux de payer pour des contenus gratuits disponibles sur la TNT, c'est ce qu'ils martèlent depuis le début, d'autant que les montants demandés par TF1 sont pour eux exorbitants, autour de 25 millions d'euros pour Orange, un peu moins de 20 millions d'euros pour Free, l'équivalent d'une série télé comme Baron Noir, explique de son côté le groupe Canal+. Vous l'avez dit, ça commence à se faire ressentir sur les audiences. En bourse aussi, hier, l'action TF1 a perdu jusqu'à 1,59%. Un accord doit rapidement être trouvé, en tout cas avant la Coupe du Monde de foot, car l'effet numéro 2, ce sera celui de la pub. Quand vous êtes moins vu, vous vendez évidemment pas votre pub au même prix. Dernière donnée en France sur les 58 millions de foyers équipés de télé, plus de 14 millions regardent la télévision par le satellite, plus de 35 millions par l'ADSL, câble ou fibre optique. Ça fait quand même du monde.
Ça fait du monde. Merci Laurent. Alors pour aller plus loin, Cyril Lacarrière, journaliste média à L'Opinion, est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Donc après Canal+, Free et Orange, on le disait à l'instant, menacent à leur tour d'interrompre la diffusion des chaînes du groupe TF1. C'est du bluff ou elles vont vraiment mettre leur menace à exécution?
Oui, il y a sûrement un peu des deux. Forcément, dans une guerre commerciale et des négociations comme celle-ci, on bluffe un peu. Canal est allé au-delà du bluff, a coupé le signal. Pour Free, il y a quand même une deadline, une date limite. Leur contrat de distribution court jusqu'au 31 mars, pardon. Donc, ça laisse encore un mois presque entier pour réussir à négocier et à trouver une issue à des négociations qui durent depuis plus d'un an et demi maintenant. La question d'Orange, en revanche, est plus subtile. Eux peuvent couper du jour au lendemain, puisque là, le contrat est terminé, le contrat de distribution est terminé, et il pourrait très bien arriver que demain, Orange décide de couper. Est-ce que c'est du bluff? En tout cas, on veut inverser le rapport de force et prendre la main sur les négociations et essayer de faire rompre TF1, ou en tout cas plier TF1.
En attendant, ça commence à leur coûter cher, puisque les audiences sont en berne, moins 13% ce week-end. Le JT de TF1 qui est battu trois fois en quatre jours par celui de France 2, ça coûte cher à TF1, ça.
Ça va finir par coûter cher aujourd'hui.
Même si c'est pas tout spots à fait sont, quantifiable.
Voilà, tous les spots sont vendus, il y a la grande soirée des Enfoirés vendredi, tous les spots sont pleins, donc pour le moment, ça va, mais TF1 doit subir une baisse quotidienne de ses audiences, avec chaque jour, on publie, Médiamétrie publie les audiences. Et ça, pour TF1, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre, d'être dans une tendance baissière comme ça, quotidiennement. Alors que les distributeurs, avant de constater que les abonnés quittent Free, quittent Orange ou quittent Canal+, il faudra des semaines, voire des mois pour le savoir.
Est-ce que TF1, dans l'urgence, là, pourrait faire un peu marche arrière, c'est-à-dire être moins gourmand sur leurs demandes financières?
Il va falloir de toute façon trouver une issue. Ça passe effectivement, certainement, par baisser un peu les demandes financières, mais aussi, c'est ce que demande Canal+, c'est ce que demande Orange, c'est ce que demande Free, c'est-à-dire de ne pas demander à payer pour le signal de TF1. Les opérateurs sont tous d'accord pour payer pour des services tiers, c'est-à-dire du replay plus long, mais ils ne veulent pas payer pour un service qu'ils estiment, une chaîne qu'ils estiment gratuite.
TF1 est perdant dans l'histoire, on l'entend bien, mais surtout les grands perdants sont les téléspectateurs. On les entendait hier dans les auditeurs en la parole. Ils ont plus leur première chaîne, quoi. Ils sont un peu perdus.
Oui, le problème, c'est que quand on est abonné aux offres Canal+ aujourd'hui, offres CanalSat, on n'a pas accès à TF1 et on cherche des modèles alternatifs. Alors soit on retourne à la TNT, à l'antenne râteau historique. Hein, il y a encore moins de la moitié des foyers, mais encore pas mal de gens qui regardent la télévision comme ça. Et puis ça peut aussi pousser un peu ce que le mouvement, la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on lâche un peu la télévision pour regarder les programmes sur Internet, sur l'ordinateur, sur vos tablettes.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière, journaliste média à l'Opinion, d'être avec nous et justement d'avoir décrypté tout ça, en plus de Laurent Marsic, notre spécialiste média. On va en parler avec vous, bien sûr, parce que déjà hier, vous étiez nombreux à nous appeler. Faites-le encore. Dites-nous si vous vous sentez en otage par rapport à la situation, si vous arrivez quand même, malgré tout, à regarder TF1 et les chaînes du groupe. Vous êtes les bienvenus au 3210, vos prises de parole 3210, puis vos messages nombreux, comme d'habitude, notamment sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole.
En tout cas, il n'y a pas d'écran du tout pour les tout-petits. Vous n'allez pas pouvoir ignorer le message. Il est désormais inscrit noir sur blanc dans le nouveau carnet de santé. Avant 3 ans, évitez de mettre votre enfant dans une pièce où la télévision est allumée, même s'il ne la regarde pas. Ne lui donnez pas de tablette ni de smartphone pour le calmer. Odile Pouget, c'est désormais une question de santé publique.
Oui, retard de langage, communication laborieuse, agitation, au contraire, très grande passivité. Ce sont quelques-uns des problèmes présentés par les enfants, trop exposés aux écrans. Le psychiatre Serge Tisseron envoie régulièrement en consultation.
Ce sont des enfants qui ont énormément de difficultés pour utiliser leurs 10 doigts parce qu'ils ont très peu d'activités manuelles. Et puis souvent aussi, ils ont de la difficulté à repérer les émotions sur le visage d'autrui parce qu'ils n'ont pas suffisamment interagi avec un humain dans les premières étapes de leur développement.
Alors pour venir en aide aux parents désorientés, le psychiatre édicte quelques règles simples. Avant 3 ans, pas de télé. Après 3 ans, une demi-heure d'écran maximum, mais toujours accompagné. Avant 6 ans, pas de tablette ou de console de jeu personnel.
Ils doivent l'acheter pour la famille et éventuellement marquer leur nom de manière à ce que, quand l'enfant utilise trop cet outil, le parent puisse rappeler que ce n'est pas un outil qui appartient à l'enfant. Sitôt qu'on achète un outil numérique à un enfant, il est très difficile d'en réguler l'usage parce que l'enfant, à juste titre, vous oppose que si vous lui avez acheté, ce n'est pas pour le lui enlever.
Et pas de smartphone pendant les repas, des règles que les parents se doivent aussi de respecter.
Ça, ce n'est pas toujours facile. Et nous vous attendons justement au 32. Dites-nous comment vous gérez les écrans avec vos enfants et vos ados. Vos témoignages, vos conseils aussi sont les bienvenus.
3210 et les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter RTL Midi, vous êtes les bienvenus. À suivre la météo, c'est Louis Baudin, bien sûr, avec aujourd'hui son parapluie. RTL Midi.